un anniversaire, l'anniversaire du pape, enfin l'anniversaire du pape en tant que pape, puisque cela fait 5 ans qu'il occupe ce Saint-Siège.
France Culture au Salon Livre Paris. Du 16 au 18 mars, France Culture célèbre les livres et leurs auteurs. La Russie, invitée d'honneur cette année, 25 émissions en direct et des temps forts dédiés aux auteurs russes d'hier et d'aujourd'hui. Solzhenitsyn, Tolstoï, Zakhar Prilepin ou Ludmila Ulitskaya. France Culture en direct de Livre Paris, du 16 au 18 mars, Hall 1, stand F1 du Salon, porte de Versailles. Plus d'infos sur franceculture.fr, en partenariat avec le Figaro Littéraire.
7h17.
Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Herner.
5 ans après l'élection du pape François, les catholiques français ont-ils changé? Bonjour Denis Pelletier, vous êtes historien, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. On a beaucoup parlé de ce pape. Les choses ont-elles réellement changé en matière de pratique religieuse?
En matière de pratique religieuse, non, pas tellement. Si un pape pouvait changer les pratiques religieuses, ça serait depuis longtemps. Donc non, ni vraiment en France, ni vraiment dans le monde, du point de vue de la pratique proprement dite, c'est-à-dire de la pratique dominicale, de la pratique de la messe. C'est le pape pèse peu sur les décisions des fidèles.
En revanche, est-ce que l'on peut dire que ce pape a influé sur la ligne de l'Église, qu'il a rendu par exemple l'Église plus ou moins conservatrice qu'auparavant, notamment sur les questions de mœurs?
C'est un pape politique qui a une vraie volonté de transformer l'Église. Ça ne veut pas dire que ça soit un pape progressiste au sens philosophique du terme. Et donc oui, sur un certain nombre de points, il a lancé des réformes, il a lancé un certain nombre de changements pour lesquels il se heurte à de fortes résistances. Alors c'est des changements qui concernent à la fois la direction de l'Église, le gouvernement proprement dit de l'Église, la curie, ce qui se passe à Rome, et puis c'est un certain nombre de thématiques sur lesquelles il s'engage plus particulièrement.
Alors en matière de politique interne, qu'est-ce qu'il cherche à faire au Vatican ?
Au Vatican, lorsqu'il est arrivé pape, il est confronté à un gouvernement du Vatican, à la curie, qui se heurte à toute une série de problèmes, à la fois parce que c'est pas une très grosse bureaucratie, hein, c'est 400-500 personnes, mais c'est une bureaucratie vieillissante, c'est une bureaucratie un peu lourde, et par ailleurs il y a un système de sélection des responsables de l'Église, des cardinaux, des responsables de dicastères, des responsables de congrégations, c'est-à-dire des ministères à Rome, qui sélectionne au bout du compte des gens particulièrement conservateurs. Et je pense qu'il y a une conviction très très forte chez François que l'Église a besoin de bouger sur ce terrain-là si elle ne veut pas perdre le contact avec la réalité très diverse en outre des sociétés catholiques dans le monde.
Alors évidemment, ces réformes politiques, elles se déroulent de manière un peu opaque, en tout cas pour nous qui sommes à l'extérieur du Vatican. Est-ce qu'il a réussi à mener à bien cette réforme, ce renouvellement du personnel du Vatican ?
Il y a une réforme de la curie qui est en cours depuis plusieurs années et dont on ne voit pas arriver la fin. Mm-hmm. Ça fait plusieurs années qu'il y travaille.
Ça veut dire qu'on en voit le début ou...
On sait que fonctionne un petit groupe qu'on appelle le C9, qui est formé de 9 cardinaux proches de lui et qui essaye de transformer proprement dit la curie. Ça se heurte à de très très fortes résistances. Il faut comprendre que l'Église est une machine extrêmement compliquée à gouverner parce qu'à la fois c'est une machine qui est très centralisée sur Rome, en matière de magistère, en matière de prise de décision. Et en même temps, l'Église, c'est près de 3000 diocèses dans le monde. Dans chaque diocèse, l'évêque est maître dans son diocèse. Et donc, c'est à la fois un système qui est très centralisé et un système où les responsabilités sont très diffuses. Et où les manières d'être catholique, d'un pays à l'autre, d'un diocèse à l'autre, sont très différentes. Et il y a une vraie conviction chez François, qu'il faut travailler sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois au centre, changer le gouvernement, mais en même temps tenir compte de cette diversité.
Denis Pelletier, vous qui êtes historien des religions, on a l'impression malgré tout que ce pape a renoué avec une certaine critique sociale.
Tout à fait. C'est un pape argentin, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui s'est longtemps pensé hégémonique du point de vue des catholiques et qui se trouve confronté aujourd'hui à la montée très forte du néopentecôtisme. C'est aussi un pape qui a été confronté...
C'est mal connu en France, mais c'est un véritable enjeu à l'échelle internationale.
C'est un enjeu considérable. La montée du pentecôtisme dans le monde entier, pas seulement en Amérique latine, en Afrique, en Asie, y compris en Europe, est un véritable enjeu. Un enjeu considérable.
Hein ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est une concurrence, parce que dans un système qui se globalise, l'Église est traversée par la globalisation, comme l'ensemble du monde, dans un système qui se globalise, les institutions centralisées comme l'Église catholique sont en difficulté face à ces petites églises pentecôtistes dispersées, indépendantes les unes des autres ou autonomes les unes par rapport aux autres et beaucoup mieux adaptées à ce système à ce système de multipolaire que devient le monde religieux.
Et alors sur les mœurs, le discours du pape est plus contrasté. Est-ce que vous pouvez nous le décrypter, Denis Pelletier?
Le pape est certainement pas un progressiste au sens où c'est pas quelqu'un dont il faut attendre qu'il accepte le mariage pour tous, qu'il accepte l'homoparentalité, qu'il accepte des mesures de ce type. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un qui est très sensible au fait que d'un pays à l'autre, encore une fois, d'une région à l'autre, le rapport aux mœurs varie. Et donc, il essaye d'en tenir compte. Et donc, on a eu un certain nombre d'ouvertures qui ne sont pas des ouvertures théologiques, qui ne sont pas des ouvertures doctrinales, parce que ça lui est extrêmement difficile de le faire, mais qui sont des ouvertures pastorales sur des enjeux comme les divorcés remariés, l'homosexualité, et l'avortement, la contraception, etc., etc.
Où là, il a fait preuve, effectivement, d'ouverture. Pourquoi a-t-il si mal géré les questions de pédophilie? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à clore cette page noire dans l'histoire de l'Église?
Il a lancé un vrai programme de lutte contre la pédophilie à la tête de l'Église et dans les diocèses. Et dans les diocèses, il l'a lancé assez tôt. En fait, c'est Benoît XVI qui l'avait lancé avant lui. Et il s'est retrouvé bloqué face à des résistances de la curie elle-même et des résistances des résistances cléricales très classiques. Et manifestement, il n'arrive pas à se débarrasser de ces résistances. Et de ce point de vue-là, oui, il y a quelque chose qui, pour l'instant, apparaît comme un échec. D'une manière générale, on a l'impression qu'il lance un certain nombre de réformes et qu'il se heurte sur l'ensemble de ces réformes à des très très fortes résistances. Et encore une fois, des résistances qui viennent pas seulement de la curie, qui viennent pas seulement de Rome, qui peuvent venir du Sud, qui peuvent venir de la partie la plus conservatrice du catholicisme mondial.
Dernière question, Denis Pelletier, est-il très populaire parmi les pratiquants français? Au début, on parlait de superstar, puis on a l'impression que son prestige s'est un peu terni.
Il a toujours 78% de popularité en France, donc il est toujours... c'est une popularité enviable. Non, il y a des réticences du côté de la droite catholique française et qui sont liées notamment à son engagement autour des migrants.
Merci beaucoup, Denis Pelletier, de nous avoir présenté cette popularité du pape 5 ans après son accession au trône.